Allô, allô. Vous êtes sur le plateau radio court-circuit.
Ouais, vas-y, je suis sur radio. Check ça.
Radio.
On continue les plateaux à Saint-Sulpice-la-Forêt après le plateau qui nous projetait en 2045. Peut-être que tu vas nous projeter aussi en 2045, mais nous sommes avec Lucie Trégouet.
Oui, bonjour.
Et nous allons parler d'autoconso.
C'est ça.
D'autoconso énergétique.
C'est ça, on va parler d'autoconsommation collective. Il y a plusieurs autoconso. On a l'autoconso individuel qui permet à un habitant, par exemple, d'installer une centrale photovoltaïque sur sa toiture qu'il consomme lui-même dans ses consommations de tous les jours. Et on a l'autoconsommation collective qui permet d'avoir plusieurs consommateurs sur la consommation de plusieurs ou une seule centrale. Donc ça permet à beaucoup plus d'acteurs de bénéficier de l'autoconso, de la production renouvelable, généralement de la production solaire. Rapidement et très peu en détail, l'autoconsommation collective par rapport à l'autoconso individuel.
Et c'est quoi les enjeux par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, on utilise quoi comme énergie? Elle vient d'où et quelles sont les transformations qui sont proposées par ce que tu présentes, toi?
Alors, on a plusieurs types d'énergie. On a les énergies qui sont dites fossiles, avec la production de pétrole notamment. Mais là, l'enjeu de nos jours, c'est de transférer ces consommations fossiles en consommation électrique, qui produit moins de carbone selon comment on produit l'électricité. Donc aujourd'hui en France, c'est majoritairement le nucléaire qui nous permet d'avoir de l'électricité, mais on a les énergies renouvelables qui permettent de produire également de l'électricité. Donc on a l'éolien et le solaire majoritairement qui sont développés. Et l'idée, c'est de... c'est d'augmenter notre part de consommation sur des énergies renouvelables, mais ça nécessite aussi d'augmenter nos productions renouvelables avec des nouveaux parcs éoliens, des nouvelles centrales solaires, qu'elles soient en toiture, au sol ou en ombrière.
Et pourquoi passer du nucléaire à ces énergies renouvelables ?
Le nucléaire, c'est une technologie qu'on a beaucoup développée en France pendant très longtemps et qui nous a permis pendant longtemps d'avoir beaucoup d'électricité. On a le souci maintenant d'avoir des centrales qui sont vieillissantes et donc on a la nécessité de diversifier nos productions d'électricité, d'autant plus que, comme je l'évoquais tout à l'heure, il faut qu'on réduise nos consommations d'énergie fossile et le nucléaire ne permet pas de remplacer la totalité de nos consommations fossiles. Il faut diversifier au maximum nos consommations et nos productions via des sources d'énergie plus durables dans le temps.
Ok. C'est vrai que quand on s'installe dans le coin, il y a différents types d'habitations. Il peut y avoir des habitations où il y a du fioul encore. Ça existe pas mal, ça, dans les campagnes.
Oui.
La part de... Je sais pas où est-ce qu'on en est, la part, par exemple, aujourd'hui, d'énergie renouvelable sur une commune comme Saint-Sulpice. Est-ce que on sait à peu près où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Alors, je ne vais pas avoir les chiffres en tête là, comme ça.
Il n'y a pas de souci. Hein. Ça peut être une question à laquelle on ne répond pas. Il n'y a pas de problème.
Ça marche. Mais en fait, l'idée, c'est de, en fait, on va avoir un enjeu qui est de consommer beaucoup plus d'électricité, notamment, enfin, consommer et produire beaucoup plus d'électricité, dans le sens où, par exemple, les voitures électriques se développent de plus en plus. On a de plus en plus de voitures électriques qui sont sur notre parc automobile, mais il faut avoir de quoi les alimenter, et donc ça nécessite d'avoir plus d'électricité. On va aussi avoir sur le chauffage, on va passer d'un chauffage à gaz à beaucoup plus de chauffage électrique, et c'est encore une fois une source qu'il faut alimenter, et donc avoir plus de production électrique en général. Mais c'est vrai que je ne vais pas avoir de chiffres à donner sur ce qu'on consomme en fossiles et ce qu'on consomme en électrique, là, comme ça, j'ai pas... Ouais,
C'est moi qui suis très curieuse, mais il n'y a pas de souci.
C'est quoi le projet sur Saint-Sulpice ? Donc, c'est autoconso en électricité ?
C'est ça. Alors, la commune a plusieurs projets, notamment avec la construction de nouveaux bâtiments. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre des centrales solaires sur ces bâtiments-là. Et on a aussi des projets de mettre des ombrières qui permettent donc de produire de l'électricité grâce au soleil. Et donc, cette électricité-là, on a pour objectif d'en faire une autoconsommation collective, c'est-à-dire que l'électricité qui va être produite va être consommée directement par les participants de la boucle. Donc, quand je parle des participants de la boucle, ça peut être la collectivité avec les bâtiments de la commune, tels que la salle polyvalente, la mairie, mais ça peut aussi être des commerçants, des industries éventuellement, et aussi des particuliers qui veulent s'impliquer et donc consommer l'électricité qui est produite. C'est-à-dire que donc les centrales solaires vont produire en journée, l'électricité qui est produite, au lieu d'être vendue directement sur le réseau et être éparpillée un peu partout, elle va profiter directement aux consommateurs qui s'impliquent dans la boucle.
Est-ce qu'elle est stockée dans l'idée, cette énergie, ou est-ce qu'elle elle profite directement ?
Alors, pour le moment, on n'a pas prévu de mettre de moyens de stockage. Donc, l'électricité sera consommée directement. Ça veut dire que en journée, ils vont pouvoir consommer sur la production solaire des centrales. Mais ça nécessite quand même d'avoir un apport par les fournisseurs classiques d'électricité sur les moments où les centrales ne produisent pas. Donc ça veut dire que les consommateurs vont avoir deux contrats, deux schémas contractuels avec différents producteurs. Leur fournisseur classique d'électricité qui va leur permettre de consommer la nuit ou le soir, et un contrat avec le producteur d'énergie solaire qui va les alimenter en journée.
Parce que la particularité de ces énergies renouvelables, c'est, si je ne me trompe pas, c'est aussi qu'elles sont intermittentes potentiellement.
Oui, alors c'est le cas du solaire, en effet, que on est quand même sujet à quand est-ce qu'il y a du soleil. Donc évidemment, on va produire plus en été et on va produire en journée, donc sur des plages assez limitées. C'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir quand même un fournisseur classique d'électricité, que ce soit EDF, Enercop, ça peut être plein de... Mais c'est des choses qui se font... assez facilement, le lien entre... en fait, c'est Enedis qui va calculer les consommations des consommateurs, qui va dire, vous avez consommé tant sur votre fournisseur classique d'électricité, vous avez consommé tant sur la production solaire. Donc, ce qui est consommé sur la production solaire est déduite de la partie du fournisseur classique. Et donc, c'est Enedis qui fait tous les calculs. Et ensuite, nous, on fait juste la facturation avec ce que vous avez effectivement consommé sur la boucle, qui est donc soustraite de l'autre facture.
Ok. Et du coup, moi, j'essaie de comprendre. Quand j'entends autoconsommation, alors au début, comme je ne savais pas qu'il s'agissait d'énergie, je me demandais s'il s'agissait de nouvelles pratiques d'anthropophagie, mais non. Et du coup... Si c'est bien des questions d'énergie, par exemple, on produit de l'électricité, je vais par exemple en bénéficier, mais je dois quand même payer un contrat, c'est-à-dire il faut que je paye quand même pour cette énergie qui est produite par mon panneau solaire ou comment ça se passe, ou pour la commune par exemple, si on va à la salle polyvalente, il y a une activité, c'est la commune qui va devoir payer cette énergie autoproduite. Comment ça se passe en termes de coûts?
Alors du coup, quand on installe une centrale solaire, on a un prix de revente de l'électricité qui nous permet de rentabiliser la centrale. Donc l'électricité qui est produite n'est pas gratuite malheureusement, mais c'est un prix qui est déterminé une fois que la centrale est installée et donc qui va rester stable dans le temps. En fait, c'est surtout ça l'intérêt de l'autoconsommation collective, c'est qu'on va avoir un prix de production pour les centrales, mais qui va rester fixe pendant 20 à 25 ans. Alors que votre fournisseur classique d'électricité, on le sait très bien, le prix de l'électricité peut varier entre les mois, entre les années, et donc selon les années, ça peut être plus ou moins cher. Alors que la production photovoltaïque, on sait une fois que la centrale est installée, on va vendre l'électricité à un tel prix et ce sera le cas pendant toute la durée de vie de la centrale.
Ok, je comprends un peu mieux là.
La durée de vie de la centrale, ça correspond à quoi?
À combien de temps? C'est entre 20 et 30 ans, généralement. Après, les panneaux continuent à produire, mais on garantit pendant 25 ans que la production sera au moins de 80% de la puissance de la centrale. Après, les panneaux perdent, entre guillemets, en puissance, mais ils continuent à produire. Donc, on peut garantir un prix pendant au moins 20 ans.
Ok, et ton métier exactement, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ?
Alors moi du coup je travaille à la SEM Énergiv, donc une SEM c'est une société d'économie mixte, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a un actionnariat à la fois public et privé. Donc dans le cas de la SEM Énergiv c'est majoritairement public avec le syndicat des énergies d'Ille-et-Vilaine qui est notre actionnaire majoritaire, mais on a aussi le département d'Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole qui sont donc des acteurs publics. Et ensuite on a des banques qui nous accompagnent pour la partie entre guillemets privée, on va avoir aussi la Banque des Territoires qui nous accompagne. Et donc c'est un acteur majoritairement public dont l'objectif est de développer les énergies renouvelables en Ille-et-Vilaine. Quand je parle d'énergie renouvelable, je parle de photovoltaïque, donc comme on l'a évoqué jusqu'ici, mais aussi d'éolien et de méthanisation. L'idée c'est vraiment de développer ces énergies sur le territoire en essayant d'impliquer au maximum les collectivités et les citoyens dans ces projets. Et donc moi, mon rôle à la SEM Énergiv, c'est de réaliser de la concertation. Je suis chargée de concertation pour des projets d'énergie renouvelable. Et donc l'objectif, c'est d'informer au maximum les citoyens, les élus qui sont concernés par nos projets, de ce qu'on fait, et essayer aussi et surtout de les impliquer dans les projets en organisant des réunions publiques, en leur permettant d'accéder au financement et à la gouvernance de nos projets. Voilà, mon métier, c'est surtout d'informer les gens et de leur permettre d'avoir toutes les informations qui sont nécessaires pour comprendre les projets et les prendre en main, avec du coup des projets qui ont pour objectif de bénéficier au territoire et faire en sorte que les retombées économiques et sociales qui peuvent être générées soient sur le territoire et qu'on maximise justement ces retombées-là et que ça bénéficie au territoire d'implantation.
Moi, par rapport à ces questions d'énergie, je pense toujours à comment est-ce qu'on peut la stocker ou pas, et comment est-ce qu'on pense aussi l'efficacité d'une certaine manière énergétique, c'est-à-dire que là on parle, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais là on parle de la captation d'énergie pour la redistribuer. Mais si par exemple le bâti crée des déperditions d'énergie, cette énergie elle est produite pour que finalement elle soit pas efficacement distribuer ou utiliser. Est-ce que tu sais si c'est couplé avec des programmes d'isolation sur le territoire qui permettent de ne pas perdre cette énergie qui est produite ?
Alors oui, c'est une question très intéressante parce que produire de l'énergie, c'est bien. Savoir l'utiliser et la garder, c'est mieux. Donc en effet, donc la SEM Énergie est basée vraiment sur la production d'énergie renouvelable. Mais le SDE 35, lui, met en place aussi d'autres actions. On a récemment ouvert un pôle de rénovation énergétique des bâtiments qui s'appelle Seren. Et donc, l'objectif, c'est de faire des audits énergétiques dans des bâtiments communaux pour voir comment est-ce qu'on peut les rénover pour justement faire en sorte qu'ils soient plus efficients et qu'on ne perde pas l'énergie qui est utilisée. Et aussi, la transition énergétique, ça nécessite un changement de comportement. C'est se re-questionner sur comment est-ce qu'on utilise l'énergie et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser mieux. Donc ça passe aussi avec des actions de sensibilisation pour mieux comprendre toutes ces questions-là et essayer de faire évoluer un petit peu les mentalités sur ce sujet.
Dans ton métier, du coup, qui concerne vraiment la concertation, je suppose que tu as l'habitude de te confronter à plein de publics, des publics qui sont déjà entre guillemets un petit peu acquis, c'est-à-dire qui sont sensibles à sa question un peu de transition énergétique et qui sont OK pour aller vers des énergies renouvelables, des gens peut-être qui sont un peu mitigés, qui entendent « Ah oui, mais bon, ça pousse assez complexe, on n'a pas encore toutes les solutions », et des gens qui sont réticents, qui se disent « Non, mais voilà, on n'y arrivera pas ». Je suppose que tu as des outils au niveau de ces concertations pour amener de l'information et pour faire un petit peu bouger les lignes. Comment ça se passe un petit peu, ça, ce cœur du métier de la concertation, de faire face à tous les avis un peu citoyens
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de publics différents, avec du coup des personnes qui sont déjà beaucoup sensibilisées, d'autres qui sont inquiets, qui se posent beaucoup de questions et à juste titre, et d'autres qui sont moins enclins à faire justement des efforts ou à comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc c'est vraiment important quand on organise des réunions de faire comprendre que...
De reprendre des bases, en fait.
De reprendre les bases, de faire de la sensibilisation et de remettre un petit peu dans son contexte ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et surtout donner des informations qui sont vraies, parce que moi je travaille du coup beaucoup sur l'éolien et on a beaucoup de sujets qui inquiètent les gens, et il y a beaucoup aussi de mauvaises informations qu'on peut trouver sur internet et qui sont très utilisées notamment par les collectifs qui se montent contre les projets. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment de remettre les choses à leur place et de redire ce qui est vrai, mais il y a des choses qui sont reprochées, qui sont vraies, mais à nuancer. Enfin, il faut.
Est-ce que tu as des exemples de ces choses sur lesquelles tu dois remettre les pendules à l'heure par rapport à des vérités, et puis des choses qui sont vraies, mais que tu recontextualises ou sur lesquelles tu donnes d'autres éléments
Déjà, il y a beaucoup. Enfin, on reproche beaucoup aux énergies renouvelables d'être intermittentes. Justement, on nous dit souvent que c'est pas nécessaire parce qu'on a le nucléaire. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'éolien, notamment le fait que ça gâche la vie des gens parce que ça fait du bruit, alors que il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, et on a des contraintes réglementaires à respecter qui sont pas forcément comprises ou qui sont pas forcément intégrées par les personnes, alors que c'est des choses qu'on doit respecter et on fait tout pour éviter d'impacter trop les habitants. Et c'est aussi l'intérêt de la concertation, de comprendre ce qui inquiète les gens et comment est-ce qu'on peut agir sur ces sujets-là pour que le projet se fasse le mieux et qu'il soit le moins impactant pour ces personnes-là qui sont concernées directement par les projets.
Je me dis, que ce soit des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, le fait de les fabriquer, comme le fait de fabriquer une nouvelle voiture, par exemple, ça coûte de l'énergie. Et puis, ça coûte des matériaux voilà, qu'on va chercher pas forcément dans le local. Justement, par rapport à une éolienne, par exemple, est-ce que une des questions qui peut se poser par rapport à ça, c'est est-ce que c'est vraiment durable de la fabriquer par rapport au coût énergétique de la fabrication, et est-ce que c'est recyclable, est-ce que c'est durable à ce niveau-là?
Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup aussi aux personnes qui sont assez réticentes. Dans tous les cas, la seule...
Je ne suis pas forcément réticente, mais oui, juste non, poser des questions, quoi.
Oui, je comprends, mais c'est une question qui est justifiée, honnêtement. Donc, en fait, la meilleure énergie, la seule énergie qui n'est pas... qui n'a pas d'impact, c'est celle qu'on ne consomme pas. D'abord, l'idée, c'est de consommer moins et ensuite de produire mieux. C'est vrai que construire un parc éolien, ça a des impacts, c'est indéniable. Ça demande des ressources, ça demande pas mal de choses. Après, quand on regarde l'impact carbone de ces énergies, par exemple, pour l'éolien, on est à, il me semble, 12 grammes de CO2 pour... 1 kWh de produit.
Sur toute la conception de l'éolien.
C'est ça. Quand on fait un bilan carbone, on regarde tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a pendant, tout ce qu'il y a après. Donc ça comprend les matériaux, comment est-ce qu'on les obtient et comment ensuite on les recycle. Dans le cadre d'une éolienne, aujourd'hui, les éoliennes qui sont implantées, elles sont recyclables à 95%. Le seul élément qu'on a du mal à recycler, c'est les pales des éoliennes, mais c'est pas pour autant que on les revalorise pas. Elles peuvent être utilisées pour faire du mobilier urbain, elles peuvent être valorisées de différentes manières. Donc globalement, ces énergies-là restent vertueuses, même si elles n'ont pas aucun impact. Elles ont beaucoup moins d'impact que d'autres énergies. Et on considère qu'en un an de production, une éolienne rembourse, entre guillemets, l'énergie qui a été demandée pour la produire, sachant qu'une éolienne, ça tourne pendant 25-30 ans, quoi.
Ok, merci. Ouais, bah on apprend plein de choses. Et dans un lieu comme Saint-Sulpice-la-Forêt, il est question plutôt de... photovoltaïque, d'éolien, c'est encore en concertation, c'est quelque chose à décider progressivement avec les nouveaux bâtiments.
Il y a quelque chose en lien avec la salle polyvalente, il me semble.
Ouais.
Alors, il y a plusieurs projets à Saint-Sulpice. Donc là, on reste sur des centrales photovoltaïques. On a des centrales qui sont prévues sur, effectivement, donc, la salle polyvalente, sur les nouveaux bâtiments qui vont être construits. On a des contraintes avec les architectes des bâtiments de France qui nous donnent leur avis aussi sur ces centrales et nous disent vous pouvez en mettre, là vous ne pouvez pas en mettre. C'est des choses qu'on a pris en compte. Donc il y a plusieurs centrales qui sont prévues sur la commune on étudie aussi le fait d'installer une ombrière au niveau du boulodrome. L'idée, ce serait de recouvrir le boulodrome et le parking d'une ombrière, ce qui permettrait de faire une production supplémentaire. Et il y a également d'autres plus petites ombrières qui sont envisagées sur des parkings mutualisés, donc avec 9 petites ombrières sur des petits espaces de parking qui pourraient également produire de l'énergie.
On peut rappeler ce que c'est une ombrière ?
Alors une ombrière, c'est des panneaux qui sont surélevés, ce qui permet d'avoir un espace en dessous des centrales pour mettre tout un tas de choses, généralement des parkings. C'est beaucoup utilisé notamment par les centres commerciaux qui recouvrent leur parking de panneaux photovoltaïques via des ombrières.
D'accord. Donc on pourrait imaginer prendre l'apéro là-dessous ou Exactement. Faire un parking de covoiturage.
Exactement, c'est ça l'idée. Oui.
Un coin à map, je sais pas, moi, plein de lieux de voilà où on pourrait se protéger en dessous. D'accord. Okay.
C'est ça.
Ok, ok.
Et tout à l'heure tu disais que quand on se projette vis-à-vis de l'énergie sur les territoires ou sur ce territoire, je sais pas de quel territoire tu parlais en fait, mais on imagine qu'il y aura besoin de plus de consommation d'énergie que maintenant.
On n'a pas besoin de plus d'énergie, on a besoin de plus d'énergie électrique. L'objectif, c'est de diminuer nos consommations d'énergie fossile en la remplaçant par de l'énergie électrique qui peut être produite par des énergies renouvelables et plus vertueuses que le gaz ou le pétrole. Mais on a besoin de produire plus d'énergie électrique, mais de réduire nos autres sources d'énergie, qui sont beaucoup plus impactantes pour l'environnement et pour la biodiversité.
Ok. Tout à l'heure, dans un petit moment, tu participes du coup à la librairie vivante. Si je ne me trompe pas, ça commence bientôt. Ouais, de 15h à 16h, on peut te retrouver du coup à la fabrique, c'est ça ?
C'est ça, donc j'ai un petit stand sous un petit barnum pour parler d'autoconsommation collective. Donc je vais pouvoir présenter les projets de centrales sur la commune, où est-ce qu'on a prévu de mettre des centrales solaires et comment est-ce qu'on va revaloriser l'énergie. Donc en l'occurrence, l'idée c'est de mettre en place une boucle d'autoconsommation collective, et donc je vais pouvoir expliquer ce que c'est que l'autoconsommation collective, comment ça fonctionne et comment est-ce que les participants, enfin, comment est-ce que les citoyens peuvent en bénéficier et quels sont les avantages à participer à ce type d'initiative.
Super.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bon après-midi.
Merci, bon après-midi.
Bon atelier.
Puis, j'espère voir du monde à mon atelier.
Ben oui.
Ou avoir des choses sur radio. Check ça.